J'ai pas pu imprimer mes notes ce matin, il n'y avait pas de cartouche. La cartouche était vide dans l'imprimante, alors je me retrouve avec mon laptop devant moi. Alors, la première des choses à faire, c'est bien de faire des salutations de la part des gens de Douai, en particulier les Schwab ce matin. J'ai pris le petit déjeuner rapidement, je partais avant eux. Je vais aller à Douai, ensuite de ça, ils partent en vacances, en Alsace. Alors, on se faisait la bise, dit au revoir, puis on dit « oublie pas de faire des salutations à l'église de Figny ». Alors, de la part des Schwab, et bien sûr, le reste de l'église de Douai aussi, pense à vous. Alors, et ce matin, on est réunis ensemble pour voir le livre de Malachie. Hein, je pense que c'est une très bonne idée d'étudier tous les petits prophètes. Alors, et ça m'a forcé à me replonger dans tous les petits prophètes, non seulement Malachie, mais voir un peu l'ensemble et voir les grands prophètes aussi. Et c'est un livre qui est quand même formidable. Chaque livre est très formidable dans les petits prophètes. Alors, première des choses, on demande au Seigneur de nous éclairer. Hein. Très brièvement, on lui demande. Père Céleste, parle à nos cœurs. On a tellement besoin d'entendre ta voix, jour après jour. On néglige tellement. Tu es là, toujours là, tu nous attends pour qu'on t'écoute. Et ce matin, on veut mettre ce temps à part pour toi. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Oui, bon. Ah, ça va être un peu mieux comme cela, hein? Oui. J'espère, là, je vois moins l'écran. Ça va aller. Et donc, vous savez que vous avez probablement su que les prophètes se classent en général, tous les livres des prophètes, hein, se classent en général selon trois périodes de temps décisives dans la vie d'Israël. Il y a la période pré-exil, la période pendant l'exil, lorsqu'ils sont à Babylone, et la période après. Et on parle en particulier de Juda. Pourquoi? Parce que les 11 tribus d'Israël semblent avoir été dispersées sous le règne assyrien. Et ça, c'était pas la vraie exil. C'était une sorte de petit exil, mais bon, il y a eu... les Assyriens étaient un peuple qui ont eu un royaume. Les Perses ont eu un empire. Mais les Assyriens ont été un peuple extrêmement cruel. Leur capitale était à Ninive, bien sûr, et les Assyriens étaient très sanguinaires. Ils torturaient leurs prisonniers, ils humiliaient leurs prisonniers. Alors que la tendance d'un empire, c'est que s'ils se sont battus contre une armée, ils peuvent les humilier. Mais si l'armée adverse, ennemie, a bien combattu, vraiment avec conviction, eh bien, on pouvait les honorer en les rendant esclaves, mercenaires, et les intégrer au royaume, et certains d'entre eux devenaient même des gens importants. Alors que les Assyriens s'amusaient vraiment à écraser leur ennemi, et c'était horrible. Et les Assyriens étaient quand même un petit peu différents des Syriens. Alors, il y avait les Syriens, les Assyriens, mais les Syriens étaient sanguinaires. Et lorsqu'on regarde les fresques laissées par les Assyriens, c'est horrible, regardez cela. Ce qu'on faisait aux prisonniers, c'était horrible. Mais les Assyriens avaient beaucoup de mercenaires dans leur armée, des gens qui venaient de d'autres tribus, des bons combattants. Et ils ont vraiment humilié les peuples, écrasé les peuples autour d'eux. Mais qu'est-ce qui se produit dans ce temps-là? Alors, si vous avez un garnement dans la cour d'école qui s'amuse à dire à tout le monde, « Tu me cherches parce qu'il cherche la bataille », un bon jour, il se construit des ennemis autour de lui qui sont plus nombreux que lui-même. Et là, c'est la fin. Et c'est ce qui est arrivé avec les Assyriens. Il y a eu un consortium avec le roi de Babylone, les Chaldéens, les Hittites, les Perses, les Mèdes, ils ont fait un consortium et ont dit on va en finir une fois pour tout avec les Assyriens. Et là, ils les ont écrasés, mais vraiment écrasés. Et c'était l'humiliation pour les Assyriens, mais une humiliation complète. Et certains des prophètes d'Israël ont prophétisé sur la chute des Assyriens. Alors, pour construire un empire, il faut avoir quand même une certaine sagesse. Les Assyriens étaient incapables de bâtir un empire. Parce que vous les écrasez, ensuite de ça, vous êtes un parasite qui allez chercher des taxes, percevoir des choses. Mais ce qui est arrivé aussi avec l'Assyrie, c'est que l'aristocratie des Assyriens, les dirigeants se battaient entre eux à la fin, convoitaient le royaume, etc. Et j'allais dire, mais qu'est-ce qui est arrivé avec les Babyloniens après? Les Chaldéens ont repris le dessus, mais ça n'a pas duré très longtemps. Vous savez que Nebuchadnezzar est celui qui a envahi Israël et qui a amené le reste d'Israël, qui était Juda, les a amenés en exil à Babylone. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est de voir que Nebuchadnezzar, après avoir été prophétisé par Daniel comme étant un homme qui était pour être brisé, qui a vécu une dépression dans les champs, arrosé par la rosée, par la pluie, ses cheveux avaient poussé, ses ongles avaient poussé comme un aigle, et là il vivait comme ça, comme une bête sauvage en dépression, et on l'avait complètement abandonné. Et Dieu avait dit, avec la prophétie sur le gros arbre qui était pour être abattu, et comme la prophétie avait dit, Dieu a ramené Nebuchadnezzar brisé. Et ce qui est merveilleux, c'est la louange qu'il donne à Dieu. Mais son petit-fils, Belshazzar, s'était amusé avec ses concubines à prendre la vaisselle, les ustensiles du temple à Jérusalem qui avaient été démolis. Il les a pris pour faire un festin. Et là, ce doigt qui s'est écrit sur le mur, Méné, Méné, etc. Les jours sont comptés. Et Daniel avait saisi, compris la prophétie. Et le plus curieux, malgré les concubines, la grande fête, la reine n'était pas là. La reine n'était pas là. La reine entendit le tumulte, elle est rentrée dans la salle, elle a vu ce qui se passait. Donc, elle ne faisait pas partie de cette fête. Elle était en dehors, mais ça semble être une reine qui était sage, probablement. Elle ne faisait pas partie des festivités et elle savait à propos de Daniel, du temps de ton père, en parlant de son grand-père. Il y avait un homme sage, Daniel, qui savait tout, qui révélait tout. Et Belshazzar avait complètement oublié l'existence de Daniel. On ne peut pas passer à côté de Daniel. Qu'on pense qu'il s'est produit à Belshazzar, à Nebuchadnezzar. Belshazzar avait ignoré Daniel, mais la reine le savait. Et on a fait venir Daniel, et Daniel a interprété le rêve et lui a dit, écoute, le doigt sur le mur, écoute, Belshazzar, tu t'es pas humilié comme on fait ton père. Nebuchadnezzar. Et voilà, ton royaume va être enlevé. Et les Mèdes et les Perses, qui ont pris le royaume la même nuit, qui ont envahi, étaient déjà infiltrés, faisaient partie de la vie quotidienne, du commerce. On ne pouvait pas faire du commerce avec les montagnes du Zagros sans passer par les Mèdes et les Perses. Il y avait les mines d'or, d'argent, de cuivre, qui venaient du Zagros. Et les Mèdes et les Perses avaient tendance à être des tribus assez nomades, qui avaient une drôle de religion qui existait déjà probablablement du temps de Daniel, qui a entendu parler de Zoroastre. Ici, les Zoroastres avaient une religion qui se démarquait déjà à l'époque, tout comme celle des Juifs. Ils ne croyaient qu'en un Dieu. Il y avait un ennemi. Et mais ce Dieu-là, c'était Ahura Mazda, le Dieu des cieux, et qui a un Dieu. Et Zoroastre avait dit, il faut arrêter de faire des sacrifices humains, l'homme doit revenir à la moralité, craindre Dieu, etc. Et c'était curieux parce que dans les enseignements de Zoroastre, il semble avoir déterré une ancienne religion, à mon avis, ça c'est mon opinion, vous n'êtes pas obligé d'y croire, une ancienne religion qui remonte au temps de Noé, et dans laquelle il y a des signes de la venue de Messie. Avec une certaine conjoncture d'étoiles. Et on sait que les mages, Magi, c'était une des tribus des Mèdes. C'était la tribu de sacrificateurs chez les Mèdes. Et les mages qui sont venus d'Orient visiter Jésus semblent être bien de la tribu des mages. Mais bon, il faut faire attention parce que, comme la tribu des mages était la tribu des sacrificateurs chez les Zoroastres, chez la tribu des Mèdes, par la suite, tous les gens qui faisaient partie de cette culture de savants, on les appelait les mages, peu importe d'où ils venaient. Mais le noyau semblait être les Mèdes. Et le mot magie vient de mage, magie. Alors donc, mais ce qui s'est produit, Il semblerait que la religion des Perses, zoroastrisme, était déjà un terrain très, 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 très fertile pour s'ouvrir à l'idée d'un Dieu des cieux qui serait le Dieu d'Israël. Et donc, il n'y a aucune surprise à voir que dans l'Empire perse, on voit tous ces hommes, tous ces rois, ces empereurs qui ont honoré Israël et le Dieu d'Israël. Vous le voyez avec Darius lors de Daniel dans la fosse aux lions. Vous le voyez aussi avec deux rois qui permettent la reconstruction du mur de Jérusalem et du temple. C'est quand même incroyable. Lorsque vous lisez Néhémie et Esdras, vous regardez aussi Darius dans Daniel, mais ces gens-là ils ont l'air de croyants. Ils ont l'air de croire au Dieu unique. Alors, les Mèdes et les Perses ont vécu leur moment de corruption aussi. Alexandre le Grand leur a donné une baffe et a détruit complètement l'Empire perse. Il a pris tous les livres zoroastres qui étaient à Persepolis, il les a tout brûlés. Il en restait juste des morceaux. Donc, dans quel livre se trouvait la recette secrète pour dire la venue du Messie selon les étoiles, selon l'étoile de Bethléem? On ne l'a pas. Mais elle existait dans cette ancienne culture qui a disparu. Mais, alors donc, il y a les prophètes pré-exil, Joël, Jonas, Michée, Osée, Isaïe, Jérémie, Nahum, Habakkuk, etc. Alors donc, dans les prophètes, pendant l'exil, pendant que Judas était à Babylone, il y a Ézéchiel et bien sûr il y a Daniel. Et pour les prophètes après l'exil, il y a Haggai, comment on dit en français? Haggai, Zacharie et Malachie. Et Malachie, c'est le seul prophète dont on n'est pas certain que c'est un prénom. Malachie veut simplement dire prophète de messager de l'Éternel. On l'appelle le messager de l'Éternel. C'est ton prénom, ça? On ne sait pas. Le titre, ça veut dire messager de l'Éternel. Certains disent que ça pourrait être Esdras qui a écrit le livre. Donc, c'est l'un où on a un gros point d'interrogation. Et comment on peut les placer dans le temps? Ben, c'est simple. Lorsqu'un prophète dit au temps de tel roi, ben, à l'époque, on datait tout avec les rois. Vous n'avez pas un calendrier. Vous aviez des calendriers, tel âge de l'année de tel roi. Et c'est la même chose en Israël. Avec Juda et Israël, c'est la même chose. Toute leur chronologie est selon les rois. Le temps des règnes des rois. Et chez les Perses, c'est la même chose. Chez les Chaldéens, c'est la même chose. Chez les Sumériens, c'était la même chose. Et après ça, on peut faire l'addition. Tac, 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 tac. Et, chose curieuse, c'est la même chose avec le monde avant le déluge et après le déluge jusqu'à Abraham. Le temps est donné par des patriarches, comme on le faisait avec les rois, pour Israël, pour les Hébreux, et aussi pour le monde avant le déluge, avec les âges, les périodes de ces hommes. Donc, on peut mettre bout à bout, et les historiens d'aujourd'hui savent très, très bien le temps exact. Avec Malachie, quand le livre a été écrit, on a une approximation. On sait que c'est sous l'Empire perse. Alors, donc, on peut avoir une idée approximative quand a été écrit. Il n'est peut-être pas le dernier livre de la Bible à avoir été écrit, de l'Ancien Testament à avoir été écrit. Il n'est peut-être pas. Il a peut-être été écrit en même temps que Zacharie, que le livre de Zacharie. Mais il a été écrit à un moment bien particulier en Israël et on sait que le temple était déjà reconstruit. Le temple s'est reconstruit sous qui? Vous avez Néhémie. Et Néhémie avait reçu une lettre comme qu'on peut d'un roi perse pour aller reconstruire la muraille. Et après, sous Esdras, en même temps que Néhémie, après ça, on a reconstruit le temple avec la permission d'un roi dont on va voir le nom ici. Alors, c'est quelque chose quand même d'assez formidable, toute cette période de temps. Mais il y a une chose qui est très importante pour chacun de nous. Je sais pas où je vais. Ah, je l'ai ici. Il y a une chose qui est quand même très importante pour chacun de nous. C'est que notre alliance avec Dieu en Jésus-Christ est quelque chose de très dynamique. Voyez-le pas comme une chose statique. La chose qui est comme statique, qui est garantie, c'est notre salut. Une fois qu'on est réellement né de nouveau en Jésus-Christ, paf! Certains se sentent même prédestinés, dépendamment de votre type d'intuition, votre théologie. Mais on se sent comme saisi par Dieu. Mais après ça, cette alliance-là est dynamique, elle est relationnelle. Elle est en continuel mouvement. Chaque matin qu'on se réveille, qu'on parle à Dieu, qu'on pense, qu'on est confronté avec la vie, c'est quelque chose de dynamique, de fluide. Et Dieu nous parle et on doit lui répondre. Dieu attend notre repentance. Dieu ne veut pas non plus qu'on soit complètement écrasé, abattu par notre péché. Dieu veut nous relever. Dieu attend une repentance avec une joie. Et on doit être une bénédiction à l'intérieur d'une église, l'Ecclésia, l'assemblée des frères et des sœurs. C'est quelque chose de très dynamique. Et parfois, on va puiser dans l'Ancien Testament pour saisir des choses dans son contexte, pour comprendre davantage notre relation avec Dieu en tant qu'Église et en tant que croyant et en tant qu'association ou groupe d'Église qui font toutes sortes de projets ensemble pour que la France et l'Europe connaissent les voies du Seigneur. Mais ce qui nous interpelle d'une façon curieuse, ce qui nous interpelle, qui est assez fabuleux, c'est cette question, cette notion de Dieu le Père. Ça, c'est... Dans l'Ancien Testament, c'est un petit peu présent et ça commence à être concret avec le livre de Michée, où Dieu dit « Suis-je pas votre père? » C'est un concept assez étrange chez les Juifs. À tel point, je me suis posé la question, j'ai dit « Ben ça m'intéresse. Si Malachi compare cette relation-là à la question d'un père, parce qu'un père, ça nous engendre, hein? Alors ça, c'est l'aspect d'un père, c'est qu'il nous, il nous engendre. Boum! Et on lui appartient. On grandit en lui. Il y a un autre aspect aussi qui est important de la question d'un père, c'est comme une alliance. Un père, il y en a ici, hein, fait sans s'en apercevoir, ou une mère, à ses enfants, fait des promesses d'engagement. Attention, promesse, c'est pas si tu as un beau, j'ai des bonnes notes à l'école, hein, tu as des A, ah, et je t'achète un nouveau vélo. Sinon, tu n'en as pas. Tu sors les poubelles, tu oublies, pas d'argent de poche. Ça, c'est des contrats d'entente. Hein. Ça, c'est différent d'une promesse. Une promesse, ça n'a aucune condition. Je vais toujours être ton père, je vais toujours t'aimer, je ne vais jamais t'abandonner. Une maman va dire, quand tu souffres, je souffre avec toi. Et ça, ça se voit. Alors, quand je demande à des musulmans, quand j'explique ça, puis je demande à des musulmans, après bien avoir expliqué c'est quoi une promesse, je demande à des musulmans, avez-vous déjà reçu une promesse de Dieu? Non. Quand c'est bien expliqué, j'ai fait admettre que non. Il y a les dieux de l'islam ou les autres dieux n'ont pas de promesse. Une promesse, c'est on fait la promesse et tout ce que le prometteur, l'émetteur de la promesse demande à son récepteur, c'est d'y croire. Et si la promesse a bien passé et l'enfant se sent réellement un enfant, de toute évidence, pour lui, c'est mon papa, c'est ma maman. Et il le sait. On n'est pas des bons communicateurs, mais ça se ressent. Hein? Dans l'action, la promesse, elle est là, l'alliance. Hein? Alors, j'ai jamais vu un petit bonhomme de 6 ans arriver faire son baluchon, se lever un bon matin, prendre son petit déjeuner, merci pour le déjeuner, je peux vous donner un jouet pour le payer, parce que dorénavant, vous n'êtes plus mon père, vous n'êtes plus ma mère. J'ai décidé que je m'en allais. Hein? Au revoir, monsieur, madame, c'est fini aujourd'hui, le contrat est brisé. Non! Il y a une dépendance qui est forte y a une appartenance qui est là et on croit la promesse. C'est pour ça que Jésus dit, personne ne peut rentrer dans le royaume des cieux si c'est semblable à un petit enfant. Il dit, j'ai besoin de ta promesse, j'ai besoin de ton alliance, adopte-moi. J'y crois à l'offre d'adoption. Et là, l'alliance est scellée. Et ça, c'est important à comprendre. Et c'est pour ça, l'émetteur, celui qui émet la promesse, il a besoin d'être puissant, il a besoin de ne pas être menteur. Ça, c'est les deux conditions pour un émetteur pour savoir bien faire des promesses. Et ça, j'aime l'expliquer quand j'annonce l'Évangile. Et Abraham savait que Dieu avait la puissance de lui donner un fils, Dieu avait la puissance de le ressusciter, il devait sacrifier Isaac, et il savait aussi dans Hébreux 11, qui est dit, Abraham obéit à la promesse, parce qu'il savait que c'était impossible que Dieu mente. Le thème est repris dans Romains 6, qu'il connaissait la puissance, que Dieu a la puissance et le pouvoir d'accomplir ses promesses. Dieu nous fait des promesses, et cette alliance-là est importante, et on doit la saisir. Et cette détérioration de l'alliance se voit aussi dans Michée, dans la détérioration de l'alliance avec la compagne de ta jeunesse. Parce qu'il y avait des divorces qui s'enchaînaient. Alors, on va y revenir. Alors, Exode 21, celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort dans la loi mosaïque. Ça veut dire que, un enfant qui devient ado et qui frappe ses parents, ça c'était une abomination. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Exode 21, 17. Lévitique. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. C'est assez fort. Ça, c'est maudire avec sa bouche. Alors, autrement dit, Dieu aime les alliances. Il ne faut pas briser ces alliances-là. C'est important. Comme ceux du mariage. Alors, vous vous demandez, mais pourquoi il y a tant de divorces aujourd'hui, etc. C'est simple. Manque de conception de c'est quoi une alliance. Une alliance d'amour inconditionnel. Psaume 68. Alors là, on retravaille, on va voir tous les petits bouts. Avant d'arriver à Michée, on va voir tous les petits bouts dans l'Ancien Testament qui parle de père, les moments clés. Là, maintenant, on arrive. Psaume 68. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines, les montagnes qui ont été aplaties, on fait allusion au Messie, probablement. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. L'Éternel s'avance, il est partout, il est dans le temps. Pourquoi il s'avancerait dans les plaines? Alors, on fait allusion probablement au Messie. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Ah, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, ça veut dire qu'il leur donne un père, une mère, mais c'est qui le père? C'est qui la mère? Il ne le dit pas, le verset, mais bon. D'aujourd'hui, on pourrait dire, c'est Dieu qui est le Père. C'est Jésus, son épouse, c'est Dieu nous donne une mère, l'Église. Bon, enfin. Mais le texte ici, même si on voudrait s'en tenir au texte sans voir la dimension chrétienne après la venue du Messie, de Jésus, c'est Dieu donne une famille, il faut bien qu'il donne un Père. Pourquoi il ne suggère pas ici qu'il serait le Père? Mais on nous fait tourner autour du pot, comme on dit, et jusqu'en arriver à des choses plus claires, plus directes. Psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait que nous sommes formés, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière, mais qu'il nous a engendrés, donc automatiquement, il veut être père. Abraham n'avait pas de père, si. Mais on ne le dit pas explicitement que Dieu était son père. Alors donc, c'est curieux que la révélation se fait pas à pas. Proverbe 3, Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Ouvre-toi les yeux. Dieu, quand tu te sens châtié, vois-le comme un acte d'amour, et c'est lu dans l'un des épîtres de Pierre. Dieu nous aime, c'est parce qu'il veut être un père pour nous. Comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. C'est-à-dire l'homme qui accepte, même dans les humiliations, qui accepte que Dieu est mon père. Vous savez, vous voyez des chrétiens, des fois, là, claquer la porte d'une église, partir, amer, etc. Parce qu'ils ont été humiliés, ou ils n'ont pas été reconnus à leur juste valeur, ou parce que leur ego a été écorché un petit peu, graffiné, ou peu importe. Ils n'ont pas assez saisi que Dieu est un bon père qui profite des occasions pour nous châtier, nous humilier, pour s'occuper de nous. Et là, bon, on peut partir d'une église pour d'autres raisons, des bonnes raisons. Certaines églises ont des difficultés. Alors, on change de supermarché. Hein? Je ne vais plus chez Leclerc, je vais chez Lidl. Alors, d'aujourd'hui, les gens voient l'église comme cela. Mais ici, Proverbe 3 le dit, « Méprise pas la correction de l'Éternel. » Faut pas que tu t'effraies de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père. Alors, formidable. Ésaïe 9. Car toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Ça veut dire qu'il va arriver un point dans l'histoire, la guerre, ça va être fini. Fini la guerre. Fini les armes, fini les souliers qu'on porte dans la mêlée, c'est-à-dire les souliers qu'on porte au combat. Ceux qui ont des ceux qui sont un peu ils protègent avec des plaques d'acier ou de bronze, et les vêtements du guerrier vont être roulés, mis au feu, d'accord? Alors c'est un temps de paix. Ésaïe 9. Car, c'est le verset d'après, verset 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, et ça, c'est assez pour un témoin de Jéhovah pour aller, pour aller se lancer sur les murs pour pas entendre cela. Ça, c'est incroyable. Hier, j'ai dit, tiens, je vais aller voir dans la version du Nouveau Monde, version des témoins de Jéhovah, si on bien traduit. J'ai dit, je suis surpris, dans le Nouveau Testament, hein, je veux dire, on en coupe des bouts puis on remplace des morceaux. Où Jésus est honoré et pas adoré après la résurrection, etc., des traductions abominables. Et là, je dis, merci Seigneur qui ont bien traduit le texte, parce qu'un jour, un témoin de Jéhovah qui lit sa Bible va tomber sur cela, sur ce verset-là, où on parle du Messie, et on va l'appeler admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Oui, mais c'est le Fils. Non, un Fils nous est né. La domination reposera sur son épaule. Admirable, conseiller, on peut même l'appeler Père éternel. Non, oui, le Père et le Fils sont un. Wow! Ça, c'est incroyable. Et bien sûr, Prince de paix, on termine la phrase pour remballer le tout avec le verset 5, en parlant de ses vêtements de guerrier. Donner à l'Empire de l'accroissement, le verset 7, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Alors, on parle du Messie, bien sûr. Alors, tous les Juifs devraient voir cela ici. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant, il y a toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est amusant parce que j'ai cherché des articles un peu sur la question du concept de père chez les Juifs, si ça existait et tout. Et les historiens ont de la difficulté, les historiens théologiens ont de la difficulté à aller un petit peu partout dans les anciens écrits juifs, Talmud, etc., manuscrits de la Bervance, à essayer de voir ce concept-là. Il existait le concept de Dieu comme un père, mais il n'était pas très, très verbalisé, pas très utilisé. Ça l'apparaît avec Jésus. Et ça devait énerver beaucoup de Juifs. Qui regardent des Juifs qui se convertissent et des païens qui se convertissent à Jésus et qui se retrouvent ensemble pour louer Dieu puis l'appeler « mon père, Père céleste ». Ça devait être frustrant quelque part. ça devait être embarrassant. Hey, mais pourquoi ils font cet honneur-là de dire « Mon père, papa, oh papa céleste, mon cher papa, mon bon papa, mon papa éternel, père éternel. » Ça devait être, ça peut être irritant dans un sens, mais qu'est-ce que voulez-vous? Et on va revenir à ce point-là parce qu'on arrive à Miché, hein? Alors, on n'est pas encore arrivé à Miché. Presque. Parce qu'on arrive à Ésaïe 63. Alors, toujours pour reviser la notion de père, hein. Regardez le ciel, verset 15. Ésaïe 63, 15. Regardez le ciel et vois. De ta demeure sainte et glorieuse, où sont ton zèle et ta puissance? Le frémissement de tes entrailles et de tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Ésaïe, il crie à Dieu. Ce Dieu est incroyable, mais là, je te ressens plus, là, je ne parle plus rien. Tu es cependant notre père, car Abraham ne nous connaît pas. Abraham est mort, il ne me connaît pas. Je veux dire, c'est mon père, Abraham. Abraham, c'est mon père. Je vais aller devant une tombe vide, une tombe pleine, pardon, avec des os dedans, quelque part à la grotte qu'Abraham avait achetée. Oh, Abraham, tu es mon père! Il ne m'entend pas, il ne me connaît pas. Il savait qu'un jour j'existerais, comme promesse. Tu es cependant notre père. C'est toi notre père. C'est toi qui nous engendrais à travers Abraham, car Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. Même dans les enfants d'Israël, on a de la difficulté à reconnaître les prophètes, les hommes de Dieu. C'est ce qu'Ésaïe disait. C'est toi, Éternel, qui es notre père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre sauveur. Oh là! Intéressant. Ésaïe commence à dire, t'es mon père quelque part. Tu t'occupes de moi, tu nous engendrais. Ah, ça ne sert à rien de dire, Abraham, Abraham, t'es notre père, etc. Tu ne nous connais pas, Abraham. Toi, tu nous connais Dieu. Toi, tu connais Abraham. Alors donc, pourquoi, Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ésaïe 64, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Jérémie 31, voici, je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers les torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Oh là là, c'est Dieu qui déclare, je suis un père. Et là, quand il parle de boiteux et d'aveugles, de femmes enceintes, je veux dire, c'est pas le genre de personnes qui vont entreprendre un voyage. À moins que ce soit miraculeux, que Dieu les guide, que Dieu les aide, pour les ramener de loin, pour les ramener en Israël. Et c'est pour ça qu'on mentionne que même la femme enceinte est prête à faire le voyage. Parce que Dieu leur donne le courage, l'énergie, le potentiel, les moyens, les chevaux, les ânes ou les baskets pour le faire. Alors, Malachi 1. Ah, vos yeux le verront vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Ça veut dire qu'il est grand au-delà des frontières d'Israël. on peut s'arrêter ici, juste faire une pause, hein, juste faire ouvrir un paragraphe avant de lire le verset 6. Malachi, on ne sait pas encore qui, hein, un des messagers, Esdras, Néhémie, Daniel ont vu quoi de leurs yeux? Vous savez, le message qui était donné par Daniel, moi, c'est presque une proclamation de Noël quand les anges disent paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, c'est quand même incroyable. Décret de Darius, ça c'est le chapitre 7, verset 25. Après cela, le roi Darius, après que Daniel est sorti de la fosse au lion, écrit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. Il avait le pouvoir de le faire, il était roi des Perses, il était empereur. À l'époque, c'est difficile d'envoyer une lettre en Égypte. Les Égyptiens disaient, pourquoi ils nous envoient une lettre comme ça? Mais quand des lettres sont envoyées de la part de l'empereur qui domine tout, bon, là, on n'a pas le choix, on les lit publiquement. Alors, écrit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. La paix. Un empereur qui souhaite la paix. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui a délivré et qui sauve, qui opère des signes et qui des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel. Vous savez, le juif qui vient d'Israël, qui est un prophète d'Israël, c'est pas n'importe qui, de la puissance des lions. Incroyable, hein? Alors, il y a eu des petites anecdotes comme ça à travers l'Empire perse. Et c'est pour ça, Malachie dit, vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par au-delà des frontières d'Israël. Autrement dit, Dieu donnait un avant-goût avec l'Empire perse et toute cette histoire de l'exil et le temple à reconstruire et Jérusalem pour dire, donner un avant-goût aux nations, ha! Un jour! L'Évangile sera proclamé dans le monde entier et Jésus, le Messie, va revenir. L'Éternel lui-même en personne qui va marcher sur terre dans la personne de son Fils. C'est messianique. Je trouve toujours fantastique quand je rencontre des frères iraniens, perses. Parce qu'eux lisent l'Ancien Testament avec toute cette excitation de « Ouais! » sont persécutés et ça fait mal ce qui se passe en Iran. Mais si vous saviez le nombre, on compte par centaines de milliers d'Iraniens chrétiens qui se réunissent dans les maisons underground church, secrètement. Et je rencontre des frères iraniens partout. J'en rencontrais il y avait leur réunion à Istanbul, à Ankara, j'ai rencontré des pasteurs, il y en avait à Chypre, il y en avait partout. Il y en a des églises iraniennes à Montréal, à Toronto, à Vancouver. J'ai rencontré un pasteur iranien qui est un ancien ex-Hezbollah. Hein? Et en flamme pour le Seigneur, il crachait le feu. Et j'ai vu dans une congrégation, c'était des baptistes, pas nécessairement très charismatiques, s'avancer en avant en larmes pour redonner leur vie au Seigneur suite à un appel. Il y a son témoignage sur YouTube, si ça vous intéresse. Alors, mais c'est des gens qui, autant on voulait être extrême pour Allah, et là, quand on s'est aperçu que tout s'effondre, là, maintenant, il faut être extrême pour Jésus, dans son amour, son pardon, sa miséricorde. Et c'est des gens, moi, l'islam ne me fait pas peur. Je pense qu'il y a un terrain fertile qui se passe en ce moment pour la gloire de Dieu. Ça ne me fait pas peur. Le 11 septembre, les deux tours jumelles se sont effondrées. C'est juste un signe de faiblesse de l'islam. Et quand j'ai déménagé à Obi, j'ai réalisé qu'il y avait plein d'Arabes, mon voisin, mon futur voisin qui achetait la maison à côté. Sweet guy, très gentil, très as-as, monsieur as-as. Et déjà, on me parle de religion, qu'est-ce que je crois, ces choses-là, à la pizzeria à côté. Déjà, je m'assois et je me dis, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je regarde juste ce que le Seigneur fait chez les Maghrébins dans les monts Kabyles. Des réveils. Des réveils parmi nos frères et nos sœurs de Kabylie. Alors vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Donc Dieu n'a pas dit son dernier mot avant son retour. Il va faire encore plein de belles choses. Que ce soit en Arabie Saoudite, en Algérie, en Égypte ou n'importe où, il y a des frères et des sœurs prêts à être persécutés en Turquie, à donner leur vie pour le Seigneur Jésus. Alors, un fils honore son père et un serviteur son maître. Verset 6. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on me doit? qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs. Il s'adresse en particulier aux sacrificateurs qui méprisaient mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Alors, Malachie aussi, verset 10, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous donc infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Et Malachie 4-6, c'est le dernier chapitre, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ça sonne une cloche dans votre mémoire? Dans le Nouveau Testament, est-ce que ce passage-là est dit quelque part? Il y avait un dénommé Zacharie, la maison de Lévi, qui était lévite au temps de Jésus, hein, qui était via son épouse Élisabeth, qui était parente avec Marie, on ne sait pourquoi, on ne sait pas si c'était sa belle, on dit bon, c'était sa belle-sœur, sa tante, sa sœur ou quoi, on ne sait pas. Peut-être que Jean-Baptiste était cousin de Jésus. On n'a pas de détails sur cela, mais on sait qu'il était quand même assez proche, parent. Et Zacharie, qui dans le temple a eu cette vision d'un ange, et l'ange lui dit quoi? Il lui dit exactement ceci. Et c'est dans Malachie qu'on retrouve cette prophétie du Élie qui va être envoyé de Jean-Baptiste. On mentionne qu'un dénommé, on ne dit pas Jean-Baptiste, mais on dit ce prophète va venir. Et Zacharie apprend que ça va être son fils qui va naître d'une femme et d'un homme qui sont assez avancés en âge. Alors, c'est un texte qui est quand même fort intéressant à regarder. Alors, Malachie 1, alors si on veut prendre tous les textes dans son intégrale, oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie, je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Et si on n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Esaü plutôt. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, Édom c'était Esau. On l'appelait Édom veut dire quoi? Rouge. Adam, ça veut dire rouge. Édom veut dire rouge. Parce qu'il était velu, parce qu'il avait aussi demandé un plat de roux à Jacob. Les lentilles, on appelait ça du roux, du rouge si on veut. Alors on l'avait appelé. Alors Esaü, on le surnommait Édom aussi. Édom est une ville. Oui, Petra. La fameuse Petra. Qui était en Jordanie voir Petra? Il n'y a personne ici? J'étais en Jordanie. Et j'ai pas vu Petra. Oh, j'étais pour une réunion des écoles bibliques, l'Association des écoles bibliques du Proche-Orient. Et on m'a dit, j'avais juste quelques jours, j'étais là un week-end, on m'a dit, on t'amène à la mer morte, au mont Nébrou, où Moïse a été enterré. Et on ne trouve pas la tombe, mais quand même. Et là, je voyais la mer morte. Je me suis baigné dans la mer morte, à flotter comme un bouchon. Et j'ai vu, mais je n'ai pas été à Petra parce que c'était plus qu'une journée de voyage et je n'avais pas le temps. Alors donc, mais pour Petra, et toute cette région, cette contrée, était une ville formidable. Il y avait du commerce parce que c'était des voies, beaucoup du commerce pour aller en Arabie Saoudite ou en Égypte passait par là. C'était un carrefour. Les gens avaient beaucoup de commerce, beaucoup d'argent. C'était formidable. C'était extraordinaire. Cette richesse de Édom et tout d'un coup, à cette époque-là, tous leurs royaumes se sont effondrés puis n'existaient même plus comme peuple. C'est déjà des gens qui travaillaient avec les nomades, avec les routes du commerce. Alors, quand la ville a fermé, sont partis, sont dissipés et ils n'existent plus. Plus personne ne disait « Je suis édomite ». Non, mon arrière-grand-père, mon grand-père était édomite, mais moi, je suis, suis à 25 % édomite, alors je ne suis plus édomite. Donc, Édom avait disparu. Et Dieu rappelle, je vous aimais, dit l'Éternel, vous êtes, et vous dites, en quoi tu nous as aimés? Écoute, regardez, regarde Ésaü. Regarde Ésaü, le fils, le frère de Jacob. Regarde la postérité qu'il a donnée. Regardez les montagnes, regardez les villes, regardez ce qui arrive avec le royaume, il n'y a plus rien. Et vous, je vous ai préservé. Vous êtes passé à deux poils, à souvent, très souvent, à un moment où vous auriez disparu en exil à Babylone ou peu importe, vous auriez été disparu, je vous ai toujours préservé. Je vous ai toujours gardé. Regardez les miracles que j'ai faits pour vous préserver, pour vous garder. Donc, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Ça ne veut pas dire que Dieu dit à Ésaü, t'es pas sauvé, j'ai de la haine pour toi, je m'occupe de Jacob, je m'occupe plus. Non, Dieu a béni Ésaü. Vous saviez? C'est comme ça que Ésaü a pardonné à Jacob. Écoute, Jacob, écoute, je te pardonne, j'oublie tout, la querelle qui est entre nous. Regarde comment Dieu m'a béni. Et là, il l'a pris dans ses bras et ils ont pleuré ensemble. Ici, le texte parle de quelque chose de bien particulier en parlant de cette descendance. Et ça vous rappelle un texte dans le Nouveau Testament? Où on dit la même chose? L'apôtre Paul, Romains, chapitre 9. Romains, chapitre 9, 10 et 11. Et pourquoi Paul a été réutilisé ça, ce texte-là? Vous savez pourquoi? On a beaucoup de difficultés par moment à se mettre dans les souliers de l'apôtre Paul. Mais il faut voir le texte de Romains 9 jusqu'à 11 pour comprendre le contexte de ce qui se produisait à l'époque. Imaginez, vous voyez du paganisme partout. Des temples à tous les coins de rue, des folies, même des temples avec des prostituées, vous voyez, de tout. Et en plus de ça, vous arrivez à Athènes, un dieu égyptien, un temple au dieu égyptien. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Peut-être il y a des commerçants égyptiens qui viennent ici, puis des Grecs qui se sont dit, ça pourrait peut-être bien d'avoir un temple égyptien, les Égyptiens viennent, ils font des affaires avec nous, on les respecte. Puis à l'occasion, je peux peut-être aller au temple égyptien, et adorer le dieu égyptien en question, il va peut-être m'aider, hein? Plus on en a, plus on reçoit de l'aide. Et donc, il y avait ça, et tout d'un coup, il y a ces Juifs qui, dans l'Empire romain, au temps de l'apôtre Paul, certains Juifs qui se réveillent, qui entendent parler du message de Jésus. Et là, il y a des païens qui se convertissent. Et là, il y a des Juifs, mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Moi, je suis converti. Toi, Paul, tu es un Juif. Pierre, c'est un Juif. Ils ont connu Jésus. Moi, je suis un Juif. Et je vois la synagogue des gens qui me rejettent parce qu'ils veulent pas croire à Jésus. Ils veulent pas croire à ce salut merveilleux. Et là, je suis obligé de fraterniser et de m'asseoir avec quelqu'un qui mange du porc, qui est païen, qui se convertit à Jésus. Je vais faire un avec lui. C'était déjà difficile pour l'apôtre Pierre, vous le savez. D'avoir des relations avec les non-juifs. Pour Paul, il n'y avait pas de difficulté, il a grandi à Tarsus. Mais pour Pierre, c'est difficile. Et pour d'autres, dans l'Empire romain, c'était difficile. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est déjà une petite minorité, il faut s'agglomérer avec eux, avec les non-juifs qui se convertissent et faire quelque chose. Et là, Pierre écrit ce Romain. Et le chapitre 9, au verset 11, Dieu a un plan. Dieu avait prédestiné non seulement des Juifs, mais aussi des nations à recevoir le salut. Ah! Et c'est pour ça que Paul réutilise ce texte pour mettre Romains dans son contexte. Mais vous savez, les siècles passent et on oublie ce contexte-là bien, bien particulier parce qu'on le vit plus. Et Romains, et c'est amusant parce que lorsqu'il donne une conclusion formidable, à 11, chapitre 11, il parle des Juifs, tout le long il parle des Juifs. Verset 30. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, il faut savoir s'identifier, hein? Même si vous êtes né d'une famille chrétienne, vous pouvez vous dire, oh, je suis content de ne pas avoir manqué le bateau, mais je pourrais très bien avoir été non obéissant à Dieu ou non chrétien, parce que je vois des enfants qui grandissent dans des familles chrétiennes et qui ne suivent pas le Seigneur. Alors donc, ça aurait pu m'arriver. Donc, de toutes sortes de façons, on peut toujours s'identifier comme étant autrefois désobéissant à Dieu, on voit bien dans notre nature, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Fantastique, hein? De même qu'ils ont maintenant désobéi, comme les Juifs, en rejetant le Messie, afin que par la miséricorde que vous avez, qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que des Juifs qui vont se convertir en voyant des païens se convertir. En voyant des alliés, des païens embrasser leur alliance avec Dieu, c'est formidable. Ça va vous amener, ou ça va leur amener aussi la miséricorde. Il y a des Juifs qui vont se réveiller. Quoi? Oh oui. Un jour, il y a des musulmans, ils n'ont pas de pays chrétien. Oui, mais regarde, il y a tout feu, tout flamme pour Jésus. Et ça va évangéliser les pays soi-disant d'héritage chrétien. Oh! Et il pourrait y avoir aussi des Juifs en Israël qui se convertissent en voyant un musulman se convertir. Il y a une église à Tel Aviv où il y a un pasteur messianique qui partage le pastorat avec un pasteur palestinien converti. C'est quand même incroyable. Leurs témoignages aux deux sont sur l'Internet, je peux vous le trouver. Sur YouTube. Et les deux avaient de la haine pour la partie adverse, palestinien ou juif. Et maintenant, ils disent, notre espoir, c'est Jésus, pas autre chose. Ça va amener de la miséricorde. Il y en a qui vont s'ouvrir les yeux. Alors, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ah! Donc, si jamais vous voulez prendre Romains 9 parce que votre intuition vous fait ressentir que vous êtes prédestiné, comme je le ressens parfois, hein, mais je ne peux pas justifier ça avec Romains 9. Romains 9, ça ne parle pas de cela. On parle de prédestination, de l'élection d'Israël et des païens. Dans son contexte, c'est en regardant lorsque Paul conclut par ceci. Donc, vous savez, comme une intuition, n'allez pas prendre chapitre 9 pour justifier cela. Faites attention. Mais malheureusement, Jean Calvin était loin de la préoccupation de l'apôtre Paul. Et d'ailleurs, lorsqu'il prend chapitre 9 pour l'amener à une prédestination personnelle, bon, il fait un bon travail, mais là, quand il arrive au chapitre 10, au chapitre 11, il s'entache dans sa théologie. Et là, il y a de la difficulté à réintégrer tous les morceaux ensemble. Alors, c'est simplement une petite mise en garde. Vous pouvez vous sentir prédestiné, d'accord, mais pas prendre une inspiration à dire que, oh, Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Donc, il en prédestine un, puis il en prédestine un à la perdition. Je m'excuse. Romains 9 ne dit pas ça. Je m'excuse. Alors, juste faire attention à cela. Je pense que Jean Calvin est un grand théologien. Il a fait sortir beaucoup de choses des Écritures. Mais là, je pense que, comme on dit, il y a un petit peu divagué. Mais le point ici, c'est que le texte est utilisé ici pour parler à Israël et l'apôtre Paul aussi découragé pour parler aussi aux païens puis aux juifs convertis en parlant d'Israël. Parce que Paul était brisé de cela. Paul était brisé de voir que, oui, il y avait des juifs qui s'ouvraient, mais il était brisé de voir qu'il y avait beaucoup de juifs qui étaient rébarbatifs à l'Évangile. Était complètement brisé et les gens lui posaient des questions. Paul, toi qui connais bien les Écritures, qui comprends bien la sociologie du christianisme actuel, de ce qui se passe, il dit, explique-nous, mais qu'est-ce qui se passe, mais c'est quoi? Pourquoi Israël? Moi, je suis païen, pourquoi? Et je viens de découvrir Jésus, mais pourquoi les Juifs à la synagogue, ils se réveillent pas, ils s'ouvrent pas les yeux? Je leur dis, je ne vais pas leur forme, écoute, regarde, Messie, Jésus de Nazareth, et Paul doit répondre à cela. Dieu a un plan. Dieu est le potier. Dieu prédestine. Dieu prédestine les nations. Il avait organisé cette prédestination. Et Paul explique cela aussi avec un cœur en peine. Il le dit. J'aimerais mieux être anathème pour mes frères et mes sœurs. Je voudrais être maudit de Dieu pour être, si je pouvais l'être, perdu pour l'éternité, mais de façon à ce que ça soit une rédemption pour mes frères et mes sœurs qui connaissent Jésus. Alors, c'est le plaidoyer de Paul. Et on continue ici. Alors, le verset clé vraiment de Malachie. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Mais moi, je suis supposé être père d'Israël. Et vous ne me donnez pas d'honneur. Alors, si on continue, ça devient assez pénible parce que, regardez bien, le temple est restauré. On lui reste combien de temps environ? On a terminé, hein, je pense. On a fini. OK. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites en quoi nous t'avons-nous profané, c'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez une bête aveugle, n'est-ce pas mal? En offrir une boiteuse ou infirme. Ça veut dire que les gens, bon, ils ont reconstruit le temple après tant de temps, ils reviennent au temple et là, il y a un nouveau temple qui a été reconstruit. Ils prennent pas au sérieux les offrandes. Ils ne l'offrent pas de tout leur cœur. C'était horrible. Et il y a une foule de choses aussi. Et un autre point, verset 7 dans le chapitre qui suit, on est au chapitre 2, un autre verset clé, « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder le silence, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. » Il devait être gardien de la loi. Il ne le faisait pas. C'était horrible. Mais vous avez été écarté de la loi. Et il continue. Il y a un autre point aussi. Judas, c'est surtout des gens de Judas. Hein, Israël, il n'y en avait plus beaucoup. Hein, on l'a vu avant. Judas s'est montré infidèle. Une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Verset 11, chapitre 2. Car Dieu a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un dieu étranger. Israël s'est uni à la fille d'un dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Alors, pour comprendre cela, vous retournez dans Esdras, les chapitres clés où il montre que quand sont revenus d'exil, oh, il y avait des belles filles. Waouh! Qui étaient là en Palestine, qui n'étaient pas juives, mais qui adoraient toutes sortes de dieux et qui étaient peut-être habitués à l'adultère ou à je ne sais quoi, où les mariages ne duraient pas longtemps. Il y avait des habitudes comme ça, et en prenant ces femmes-là, ils n'avaient plus le contrôle sur leur vie morale. Et là, ils ont été obligés, vous connaissez l'histoire, ils ont été obligés de répudier ces filles-là. Et ça se voit un petit peu parce que on le voit ici, la conséquence de cela. On ne fait pas le lien directement, mais regardez bien. Un autre passage clé, on s'arrête après. Juste aller au chapitre 4, voir un dernier truc important. Verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs, de gémissements, en sorte qu'il n'y ait plus égard aux offrandes, qu'il ne peut rien agréer de vos mains. On ne dit pas c'est quoi, mais c'est facile à interpréter. Des gens qui viennent, donne-moi, je veux des choses, je veux. Et finalement, on est centré sur notre petit problème, on n'est pas centré sur Dieu. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Oh, alliance! Aujourd'hui, dans la société, les gens ne comprennent plus c'est quoi une alliance. Une alliance. Et ça se perd, cet aspect de l'alliance. Et là, ça rendait les gens infidèles, divorces, etc. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit. Verset 16. On saute un peu, on paraphrase. Car je hais la répudiation. Dieu est la répudiation. Vous êtes incapable d'avoir une bonne alliance avec moi et regardez les alliances que vous avez dans votre vie de couple. Ou à l'inverse. Vous êtes distrait par des mauvaises alliances, une mauvaise façon de voir l'alliance. Comment vous voulez avoir une bonne relation avec moi en tant qu'alliance? Ouf, là! Alors, verset 10. Apportez à la maison du trésor tous les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et que je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset clé, important, classique, qu'on utilise dans les églises pour rappeler aux gens qu'il faut être généreux avec l'Éternel, avoir un cœur ouvert, des mains ouvertes pour les uns les autres, les problèmes, ceux qui ont des difficultés, et envers Dieu, et Dieu vous bénit. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. C'est ce qui avait été donné à Zacharie comme prophétie pour Élie. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Israël, il y avait beaucoup de difficultés parce que le cœur de parents-enfants était détaché, brisé. Et c'était une des fonctions que Jean-Baptiste devait faire pour préparer l'Éternel parce que Jésus ramènerait le cœur des enfants à leurs parents, et de parents à leurs enfants, parce que la rébellion, c'est là qu'elle coupe. On s'arrête ici. Vous m'excuserez si j'ai pris un petit peu trop de temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle application qu'on peut en retirer? Hein? Oh, il y en a plein. Vous choisissez celle que vous voulez. Vous réfléchissez cette semaine. Hein? Vous pouvez relire Malachie et penser à toutes ces choses-là, le relire dans son intégrale et dire, Seigneur, c'est dynamique. Ma relation avec toi, elle est au quotidien, elle est extraordinaire, elle est alimentée de ta parole. Et n'importe quand je peux dire, Seigneur, tu as une alliance de faire avec moi, elle est extraordinaire, dans le sang de Jésus. Mais s'il y a quelque chose qui ne marche pas en moi, montre-moi-le pour que je me repente devant toi et que mon cœur soit avec toi. Et toujours cette dynamique importante dans notre vie spirituelle. Et les enfants de Dieu dire... Amen. Allons manger. Guy le Duc a pris trop de temps. Et je m'excuse. Amen.